pour la RTB qui n'a probablement pas les moyens de se payer des gens qui passent des mois sur des documentaires. Donc,
Oui.
en fait, on est soutenu, on est quelques réalisateurs à être soutenus par le Fonds d'aide à la création radiophonique, qui est une
Oui.
émanation de la culture, Fédération Wallonie aussi. Et donc, on fait des documentaires de création qui passent dans une émission qui s'appelle Par oui dire, donc de Pascal Tison. Je ne sais pas si vous écoutez un peu l'RTB.
De Pascal, qui?
Tison, ça
Non,
s'appelle Par
je connais pas, non.
oui dire. Et ce sont des documentaires de création, donc on utilise le médium de la radio pour faire des choses un peu plus créatives que. Enfin, plus créatif, c'est différent du travail journalistique, quoi. Et moi, j'ai fait beaucoup, surtout des sujets musicaux. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup travaillé avec des musiciens un peu partout dans le monde.
Oui.
Alors, c'est avec ce bagage-là que je me suis lancé dans ce documentaire sur la perception du temps, parce que j'ai remarqué, pour avoir travaillé notamment pas mal avec des Roms et des Africains, que la perception du temps est très différente. Et je me suis dit qu'un des principaux problèmes, surtout avec les Roms, d'intégration, de communication avec eux, c'est la perception qu'ils ont du temps. Alors moi, j'ai cherché un peu, puis j'ai un peu comme si je tirais sur le pull, sur un bout de laine qui dépasse du pull. Je suis en train de tirer tout le pull parce que c'est un sujet très très vaste.
Oui.
Et je remarque que chez nous, en Occident, disons, la notion du temps que nous croyons être la vraie et la seule logique est très très différente de beaucoup
Oui.
de civilisations et de cultures. Et alors, bon, j'ai commencé en fait par le livre de Jacques Attali sur l'histoire du temps qui m'a appris pas mal de choses, en tout cas sur notre temps. Voilà, je voulais avoir un peu votre sentiment sur l'idée qu'on ne peut pas collaborer, se comprendre la culture de l'autre si on ne commence pas par le temps.
Oui, mais moi j'ai le sentiment que je suis un très très mauvais témoin à l'intérieur même de ma propre culture, parce que quand je confronte ma représentation du temps à celle de mes contemporains, des gens autour de moi, eh bien ça correspond absolument pas. On me dit des choses sur le temps, le fait qu'il aille plus ou moins vite. On me dit que quand on vieillit, le temps passe plus rapidement. Et moi, j'ai le sentiment, enfin, ce qui est vécu, mon propre vécu, c'est que le temps que je vis correspond exactement à ce que je vois sur l'horloge. Je n'ai jamais vu qu'une année aller plus vite qu'une autre. J'ai le sentiment que tout se passe exactement à la même vitesse, que celle qui est établie par, je dirais, par la mesure. Alors, j'ai une explication possible, de la raison pour laquelle ma perception du temps est différente de celle de mes contemporains. C'est parce que je l'utilise manifestement autrement. Je travaille de 13 à 15 heures par jour. Je fais des choses extrêmement différentes. Dans ma vie, j'ai eu des métiers extrêmement différents. Je n'ai jamais eu, comme on dit, un temps mort. Et ça explique peut-être pourquoi je vis chaque seconde comme une seconde, chaque minute comme une minute et chaque heure comme une heure, alors que mes contemporains ont des vies extrêmement différentes, au sens, par exemple, où ils ont des vies extrêmement répétitives. Ils ont été professeurs au même endroit pendant des dizaines d'années, des choses de cet ordre-là. Leurs loisirs eux-mêmes étaient, je dirais, relativement réglés de cette manière-là aussi. Et donc, moi, j'ai le sentiment que je n'ai pas le sentiment qu'on puisse m'interroger, moi, en disant comment est-ce qu'on vit le temps dans votre culture et que ma représentation soit comparable à celle des gens autour de moi. Certainement pas.
Mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est dans votre passé, parce que j'ai un peu regardé tout ce que, enfin, les quelques vidéos que vous avez passées en tant qu'économiste et sociologue.
Oui.
Comment est-ce que vous expliquez, est-ce que vous pouvez, pour les gens qui écoutent, essayer de faire un résumé assez rapide, pourquoi est-ce que notre perception du temps est différente? Historiquement, est-ce qu'on peut mettre l'Église en piste qui a commencé à structurer le temps alors que le temps n'était pas structuré de manière, disons, horlogique avant? Est-ce que historiquement, qu'est-ce que vous voyez comme raison à ça?
Ben, historiquement, je vois dans ma propre culture, je vois mes ancêtres qui ont vécu comme moi, je dirais, c'est-à-dire véritablement au rythme des saisons, et dont j'imagine mal qu'ils aient pu percevoir une année comme étant plus longue ou plus courte qu'une autre, parce qu'elles étaient rythmées véritablement par le rythme des saisons. Les pêcheurs avec qui j'ai vécu, aussi bien en Bretagne qu'en Afrique, sont aussi des personnes. C'est moins le cas en Afrique parce qu'il y a moins. Les variations saisonnières sont peut-être moins marquées, encore qu'il y ait deux grandes saisons au Bénin où j'ai habité. En Bretagne, et bien, il y a quatre saisons, celles qu'on connaît. Et le retour de la pêche est lié au retour des saisons, à la température qui oscille, qui devient différente, les poissons qui arrivent et qui sont de nature différente. Et il faut noter que pour le moment, ça, c'est en train de se détruire entièrement. La prévisibilité à ce niveau-là est en train de disparaître. On est en train de tomber probablement dans un temps qui lui-même, je dirais, du point de vue physique, du point de vue géologique, du point de vue de l'évolution de la Terre, et commence à être un temps d'une nature toute particulière. Et il faudra sans doute que nous adaptions à ça. Mais effectivement, bon, mes propres ancêtres, pour autant que je comprenne, les gens avec qui j'ai vécu en tant qu'anthropologue, sont des gens pour qui l'alternance du temps est très très simple. Il y a des moments où on travaille moins, il y a des moments où on répare les engins de pêche, comme on dit, c'est-à-dire on passe plus de temps à terre, et d'autres moments on passe plus de temps en mer. C'était lié essentiellement au fait de la luminosité. Évidemment, il était pour un pêcheur, avant qu'il y ait des radars, avant qu'il y ait des sonars, il est clair que la lumière du jour était un élément dominant. Encore que le poisson lui-même, parfois, ça se déplace mieux et plus facile à capturer quand il fait nuit. Et c'est pour ça que j'ai participé aussi à des pêches à la lanterne, comme on dit, c'est-à-dire des pêches où on arrive avec sa source de lumière pour faire venir le poisson.
Mais donc, en fait, vos ancêtres et ces pêcheurs vivaient dans un temps cyclique, c'est-à-dire que la plupart des gens sur la Terre dans un temps qui n'est pas un temps linéaire, c'est-à-dire que c'est toujours le même jour qui recommence, ou c'est toujours la même semaine, ou la même saison, la même minute. Et nous, il semble que nous ayons perdu ce sens, en fait, ce sens de cette répétition. Comment dire ? En fait, nous sommes complètement sortis du présent, en fait. Nous vivons toujours dans une projection du futur. Et j'essaie de faire un rapport entre la société, disons, comme ce qu'on peut appeler capitaliste, industriel, et cette nécessité de vivre toujours dans le futur et de toujours s'échapper du présent. Parce que tout est basé là-dessus. L'économie est basée là-dessus. Le temps est très présent, que ce soit pour des placements à long terme ou bien ces opérations qui se passent en nanosecondes. Tout est fonction du temps.
Oui. Mais le fait de vivre dans le futur, il est lié à des obligations que nous acceptons ou que nous nous donnons. Et alors, dans notre tête, il y a ces choses qu'il faut faire demain, la semaine prochaine, le mois prochain, ces trois choses qu'il faudrait faire pour pouvoir faire de manière simultanée mardi prochain, alors qu'il n'y a pas la possibilité de le faire. Et ça, évidemment, ça conduit à ce qu'on appelle le burn-out, maintenant qu'on appelait le surmenage autrefois, c'est-à-dire l'obligation que nous avons de nous projeter dans l'avenir avec des choses qui sont en conflit, qu'on ne peut pas faire tout en même temps. Et ça, évidemment, ça nous ronge. C'est parce que nous avons une capacité, je dirais, de gestion, notre calendrier à venir, qui est limité, qui ne peut pas contenir davantage, qui n'est possible de mettre. Évidemment, on peut se simplifier la vie de ce point de vue-là, on peut avoir des agendas bien organisés, maintenant avec les ordinateurs, tout ça. Il y a des rappels qui vous viennent et qui vous permettent de mettre un peu d'ordre là-dedans. Quand on vivait simplement au rythme des saisons, bien entendu, alors il fallait attendre que la saison vienne. Les saisons pouvaient venir plus ou moins tard. Cette année, tout le monde a constaté, je crois, en tout cas par ici, que le muguet avait 15 jours de retard, des choses de cet ordre-là. Mais sinon, on sait que le muguet va venir. Normalement, il vient autour du 1er mai. Là, il est venu autour du 15. Mais il y a un retour, un retour du même.
J'ai interviewé un linguiste congolais, Jean Kaputa. Alors, c'était assez intéressant. Il me parlait des langues, dans toutes les langues bantoues, donc les langues du sud, je pense que le Congo, mais tout ce qu'il y a au sud.
Oui.
Il y a un seul mot pour désigner hier et demain. Et alors, il y a un autre mot pour désigner avant-hier et demain. En fait, il y a un mot pour dire ce qui est le présent et il y a un mot pour dire ce qui n'est pas dans le présent. Et je me dis, quand on veut travailler, quand on veut communiquer, faire des projets avec des gens qui ont cette notion-là du temps, ça me paraît très, très difficile. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne comprend pas les Africains à leur manière de vivre.
Oui, ben moi j'ai vécu dans un pays africain où j'ai essayé d'apprendre la langue. C'était la langue fond de l'ancien royaume du Dahomey, du pays qu'on appelle le Bénin maintenant. Et c'est vrai que la notion de temps est évaluée plutôt comme une question de distance. Et ce qui fait qu'effectivement, c'est quelque chose qui est distant d'un côté ou de l'autre peut être appréhendé d'une manière différente. C'est vrai aussi dans le breton aussi. On distingue très fort ce qui est proche et ce qui est lointain. Est-ce que ça donne une appréhension véritablement différente du moment? Je crois que non, on est tous dans le présent. La seule chose qui a véritablement une réalité, c'est cette crête extrêmement fine du présent dans laquelle nous nous faisons. Mais ceci dit, bon, tout le monde est quand même d'accord sur le fait qu'il y a une différence essentielle quand même entre le présent et le futur. C'est que le présent est connu, pardon, le passé est connu. Le passé est connu, on peut décrire le passé. Le futur, on peut décrire le futur, mais c'est de l'ordre du souhait, c'est de l'ordre de l'espérance, c'est de l'ordre d'une représentation qui est plus ou moins, comment dire, modulée par l'affect. On craint, c'est égal. Qui disait qu'est-ce que c'est le futur? Ben, c'est une chose qu'on appréhende ou qu'on envisage avec bonheur. Voilà. Tandis que le passé, non. Le passé, on le connaît. Ça peut être un passé de souffrance ou de grande joie, mais au moins, il est connu. Alors, le fait que les langues particulières appréhendent ça d'une manière ou d'une autre, oui, c'est vrai. C'est comme, par exemple, je ne sais pas, il y a la langue Yoruba distingue de manière très claire ce qu'on a entendu dire et ce qu'on sait pour l'avoir expérimenté soi-même. Et il y a eu des confusions qui ont eu lieu, que les anthropologues ont dû essayer de résoudre, parce qu'on employait du coup le mot croire et savoir. On employait savoir pour quelque chose qui était de l'ordre de l'expérience personnelle et croire pour quelque chose qu'on nous avait rapporté, et ça peut conduire évidemment à des malentendus, comme le fait que, ben voilà, que les Yoruba, à qui on a imposé d'une certaine manière le christianisme, disaient ben, c'est une religion qu'on croit, alors que la religion des Orishas, c'est-à-dire la religion qui correspond au vaudou chez les voisins du Bénin, c'est une religion qu'on sait. Alors évidemment, ça vexait énormément les missionnaires, mais c'était parce que voilà, les mots, le filet que les mots jettent sur la langue, qu'ils jettent sur le monde, est un filet effectivement qui peut être assez différent. Mais est-ce que ça modifie de manière, je dirais, essentielle la manière dont on appréhende le monde? Je ne crois pas. Je me souviens d'une conversation extraordinaire avec un pêcheur. C'était autour de minuit, c'était devant la mer, c'était dans sa maison, sa hutte, au bord de l'océan Atlantique. On a parlé du souci qu'on se fait pour l'avenir de nos enfants. Et bien que sa langue et la mienne étaient bien différentes, mais on en a parlé exactement de la même manière.
Et pourtant, le rapport au futur, notamment chez les musulmans, est assez différent. Là, c'est un certain fatalisme. Je ne sais pas s'il était musulman.
Non, il n'était pas musulman. Il était de la religion vaudoune, comme on dit, oui, de la religion de là-bas. Oui. Mais ceci dit, bon, c'est un pays où, à l'époque où j'étais là, en tout cas, où il y avait énormément de conversions à l'islam. Et c'était une manière pour les gens qui se convertissaient à l'islam d'échapper justement à l'emprise de l'église vaudoune, comme une manière de sortir de cela. Et souvent, ben, malheureusement, c'était la manière dont je le voyais, c'était que se convertir à l'islam, c'était une manière de pouvoir exercer son égoïsme sans limite, alors qu'à l'intérieur de la religion vaudoune, eh bien, il y avait un devoir de solidarité hein, de l'ensemble de la communauté.
Mais qu'est-ce qui fuyait dans la religion vaudou?
Pardon?
Qu'est-ce qui fuyait dans cette religion pour se convertir?
Les gens qui se convertissent, c'est justement la solidarité, c'est pour fuir la solidarité. Une solidarité qui est imposée par le contexte autour de soi. Si on veut ne pas devoir partager la richesse qu'on obtient, eh bien on se convertit. C'est une manière à l'islam, c'est une manière de voilà d'échapper donc au pouvoir des prêtres, les vaudounons. Les fameux vaudounons, bon, qui ont un pouvoir réel, parce qu'ils emploient vraiment des poisons, c'est pas une légende, parce qu'ils utilisent vraiment des revenants, les fameux zangbe, le mot qui a donné zombie. Les zangbe, ce sont les créatures de la nuit, et ce sont des personnages déguisés qui vont faire peur à ceux qui enfreignent les règles de la communauté.
Je vous ai écouté parler de la fin du capitalisme et cette vision un peu comme assez pessimiste. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est en changeant sa perception, sa notion du temps qu'on peut... Je vois beaucoup de gens qui se tournent vers le bouddhisme. Moi, je travaille beaucoup sur le rapport entre l'intelligence collective et l'art, sur ce qu'on appelle synchroniser les gens, les synchroniser le social, etc. Et je pense que c'est une des solutions pour changer la société. Je ne sais pas. C'est un essai que je fais. J'essaie d'avancer là-dedans.
Oui, oui. Qu'est-ce que vous pensez? C'est-à-dire, là, c'est plutôt mon expérience, je dirais, d'avoir appris la technique qui permet d'être psychanalyste, d'être familiarisé avec la psychanalyse, qui me ferait penser que les tentatives que les gens font pour avoir une appréhension du temps différente, c'est une manière, j'imagine, d'essayer de conjurer la mort, parce que la mort va venir. Alors, si on a peur de la mort, évidemment, on peut essayer, de la même manière qu'on peut essayer de changer le système économique où on est, en changeant la monnaie plutôt que de changer le rapport de force entre les personnes. On peut essayer de conjurer la mort en essayant de modifier sa représentation du temps. Je ne crois pas, comme il s'agit d'une cause perdue par nécessité, je ne pense pas que ça puisse faire beaucoup de différence. Non, je crois qu'on se réconcilie avec la mort en faisant des choses, en changeant, en ayant un impact sur le monde qui est autour de nous. Je ne pense pas que par un retrait sur soi-même, on puisse... connaître, je dirais, une véritable délivrance par rapport à cette peur. Et on le sait bien, c'est pas tellement la peur de ne plus être là, c'est la peur de la souffrance qui accompagne la transition. En général, il arrive souvent que des gens souffrent énormément en passant de la vie à la mort, et je crois que c'est surtout à ça qu'on pense, plutôt au fait de ne pas être là. Parce que bon, au XVIIIe siècle, aucun de nous n'était là, et c'est pas une chose qui nous réveille la nuit.
Oui, mais je pensais plutôt au présent, au fait d'être se tourner plus vers le présent, vers la conscience du présent. Enfin, moi, je pratique la méditation. Je suis fort intéressé par le taoïsme, qui explique qu'en fait, le passé et le futur ne sont que des illusions, surtout le futur et les constructions mentales. Mais on passe son temps hors du présent alors qu'on est bloqué dedans, comme disait Étienne Klein, le physicien.
Oui, oui.
Dans une prison à roulettes, on est bloqué dans le présent et on pense qu'on n'y est jamais finalement.
Oui, mais ce n'est qu'une prison s'il y a une souffrance qui accompagne. Le temps n'est pas une prison si on fait des choses qui vous satisfont. Au contraire, c'est une liberté, c'est une libération qui accompagne le présent si on s'est mis en position de faire ce qu'on a envie de faire, d'avoir une certaine autonomie. Bien entendu, c'est un combat. On n'arrive pas là sans lutte. On n'arrive pas à définir la personne qu'on est de manière, je dirais, par rapport à la représentation qu'on a, sans un énorme combat. Et on le voit bien, la plupart des gens succombent dans ce combat. Il faut dire aussi que les circonstances de départ vont jouer et vont déterminer s'il est facile ou non de pouvoir se déterminer comme personne. Et je ne veux pas dire simplement que le fait d'être dans un endroit où il y a beaucoup d'argent le rend plus facile et où il n'y a pas beaucoup d'argent le rend plus compliqué. Non, c'est plutôt une attitude de la manière dont, je dirais, dont une famille va vous accueillir. Et une famille avec sans argent peut vous accueillir beaucoup mieux qu'une famille avec beaucoup d'argent.
Ok, merci. Je pense que j'ai posé une autre question. Oui. Bon. Vous êtes à Vannes, c'est ça?
Oui, je suis à Vannes, oui.
Ouais. Je connaissais des... Mon père connaissait un Jorion, mais à Liège.
Ah oui.
Parce que sa famille vient de